Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Culture, recherche, conférence, événement. Le 12.
Ça part ici.
Et oui, comme promis en début d'émission, c'est maintenant le temps du panel de discussion là, dans le cadre de la semaine des ODD. Donc, on a la chance d'avoir en studio Patricia Anne-Blanchette, coordonnatrice à l'expérience étudiante et à la sensibilisation aux Premières Nations. Bonjour!
Oui, bonjour, ça fait plaisir d'être là.
Oui, bien merci. On a aussi Marie-Sarah Souka, conseillère pédagogique en développement durable. Ça va bien, Marie-Sarah?
Ça va bien, merci. Et toi?
Ben oui, merci. Donc, c'est ça, c'est un panel de discussion. Ben en fait, peux-tu un peu nous expliquer c'est quoi ça, Marie Souka, là, la semaine de développement durable, des objectifs de développement durable, parce qu'on est en plein dedans, en fait, là.
Oui, en fait, la semaine des objectifs de développement durable, la semaine des ODD. Cette année, on est à notre 4e édition. Puis c'est un moment rassembleur où, durant une semaine, on propose une série d'activités à l'ensemble de la communauté universitaire sur les 3 campus pour aborder une diversité d'enjeux sur des thématiques sociales, environnementales, économiques. Puis c'est une semaine qui est organisée par l'Université de Sherbrooke, chapeautée par le CUF, le Centre universitaire de formation en environnement et de développement durable. Puis c'est une semaine qui est vue en complémentarité avec tous les efforts déployés par l'Université de Sherbrooke pour renforcer le développement de l'agir éco-responsable de toutes les personnes qui transitent sur nos campus, les personnes, le personnel comme les personnes étudiantes. Puis dans ce sens-là, les objectifs de développement durable, ça devient un cadre commun qu'on a décidé de se donner ici à l'Université de Sherbrooke pour parler de développement durable, même si on s'entend qu'il existe d'autres cadres, dans le fond, pour parler de développement durable. Puis bien justement, moi, dans le cadre de mon mandat, surfant un peu sur les internets, j'ai découvert le document de la Commission canadienne de l'UNESCO qui s'appelle « Promouvoir l'éducation au développement durable au Canada, de nouvelles perspectives pour un avenir meilleur » qui est paru l'année passée, en 2025. Puis en lisant ce document-là, moi, je me suis retrouvée en terrain connu dans mes eaux habituelles avec les questions de développement durable qui étaient abordées. Mais quand j'ai commencé à lire le document, puis j'ai vu toutes les notions de premier peuple, de nations autochtones, bien là, je me suis sentie tout à coup dépaysée, en terrain vraiment inconnu. Puis Patricia, Anne, toi et moi, on collaborait déjà ensemble. En fait, on était déjà en contact autour de la programmation de la semaine des ODD depuis plusieurs années, mais on n'avait jamais vraiment travaillé ensemble. Donc, c'est ce document-là qui m'a fait interpeller, puis c'est de là qu'est née vraiment l'idée d'écrire une lettre qui est parue la semaine dernière, se reconnecter à la sagesse ancestrale pour un avenir durable. Puis maintenant, aujourd'hui, on est là pour ce beau balado.
J'ai été vraiment heureuse de recevoir ton invitation, Marie-Sarah, parce que c'était vraiment... c'est toujours important de trouver des voies d'accès, des portes, tisser des ponts. Donc, dans le cadre de mes fonctions, à titre d'allié à l'inclusion des perspectives des premiers peuples dans les programmes de formation, mais aussi à la sensibilisation de l'ensemble de la communauté universitaire, je trouvais que c'était vraiment une porte d'entrée extrêmement inspirante. Et moi aussi, je te relance de l'autre côté, je suis en apprentissage continuel par rapport aux objectifs de développement durable, puis je trouve ça fascinant. Et j'ai trouvé fort intéressant l'exercice de tenter de se reconnecter ensemble, de se rapprocher dans ces grandes thématiques-là qui sont fédératrices pour l'Université de Sherbrooke aussi, et de voir comment elles peuvent communiquer ensemble. Donc, je pourrais peut-être commencer là, par rappeler, pour celles et ceux qui ne le savent pas, que l'Université de Sherbrooke se situe sur le magnifique territoire ancestral de la nation Wabanaki. Le territoire s'appelle le Ndakina, qui veut dire notre terre dans un nous exclusif, donc qui est la terre pour la nation Wabanaki. C'est un territoire sur lequel nous avons la chance, l'opportunité de vivre, d'apprendre, de travailler, de jouer et de développer des relations harmonieuses basées sur la réciprocité. Donc, c'est vraiment dans cette posture de gratitude-là qu'on doit appréhender ou aborder notre positionnalité sur ce territoire-là en tant qu'institution. L'Université de Sherbrooke collabore d'ailleurs de façon de plus en plus assidue avec les membres de la nation Wabanaki au développement de ressources culturelles qui sont pertinentes, qui sont validées par la nation et aussi, surtout, je dirais, d'écouter les besoins qui émanent de la nation pour voir comment on pourrait offrir des environnements éducatifs qui correspondent un peu plus à leur réalité et qui tiennent compte et valorisent leur savoir et leur culture. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on s'est unis ici pour souligner, à travers la lettre qu'on a écrite ensemble, des liens entre perspectives autochtones et développement durable. C'était vraiment intéressant, puis encore beaucoup à creuser. Je dirais que c'est un sujet qui va continuer de me fasciner encore longtemps. Chose certaine, on a la même conviction, je dirais. C'est ce qu'on s'est aperçu dans notre discussion. Notre conviction, c'est de prendre soin du monde vivant. Et que ça commence par la qualité de nos relations, de ce qu'on tisse, mais aussi avec, pas seulement avec l'humain, pas seulement avec les relations humaines, mais aussi avec tout le vivant, la Terre. Et là, j'irai plus loin en disant les mondes invisibles, tout ce qui concerne aussi les rêves, les visions, le monde des esprits, les ancêtres. Ça fait vraiment partie, puis là, je sais que ça sort des cadres institutionnels, mais ça fait partie des réalités pour les premiers peuples. Oui. Donc, on vous suggère vraiment de lire fortement notre lettre ouverte et qui nous permet... d'ancrer un peu plus ça. Puis je pense que ma collègue pourrait nous parler un peu de notre plan stratégique rapidement qu'on a en, qui s'appelle « Oser transformer ».
Oui, bien dans le fond, dans le plan stratégique qui couvrait la période 2022-2025, on s'est rendu compte, toi et moi, en travaillant sur notre lettre, que bien, l'Université de Sherbrooke prenait à cœur autant le développement durable que les perspectives autochtones. En matière de développement durable dans les orientations stratégique institutionnel, ben on retrouvait la volonté d'œuvrer pour une société plus équitable, plus verte, plus inclusive. Puis il y avait un souhait que le développement durable soit ancré dans tous les programmes d'études, toutes les facultés confondues. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, ancrer le développement durable? Bien, intégrer le développement durable dans les programmes d'études, c'est-à-dire que, bien, actuellement, la finalité des programmes d'études, c'est de former des futures personnes professionnelles qui vont être compétentes dans leur champ disciplinaire, leur champ d'expertise. Puis on reconnaît que à l'échelle mondiale, locale et nationale, bien, il y a une panoplie d'enjeux qui sont omniprésents puis qui ont une influence sur la manière qu'on prend nos décisions, la manière qu'on vit. Fait que la complexité que ramènent ces questions de développement durable, mais c'est dans le fond que, oui, on forme des futures personnes professionnelles, mais il faut aussi les outiller à être en mesure d'appréhender les enjeux de développement durable qu'elles vont rencontrer dans le cadre de leur pratique puis d'avoir un agir éco-responsable par rapport à ça. Comment que finalement, dans notre pratique, on peut intégrer la question des savoirs autochtones des peuples, des relations de vivre ensemble, la biodiversité, la gestion de l'eau, la guerre, la paix, etc. C'est tous des enjeux de développement durable qui transforment notre rapport, disons, au vivant puis au vivre ensemble.
Mais ça fait vraiment un lien direct avec nos enjeux aussi en perspective autochtone qui nous ont amené à développer là, en 2021 un plan d'action institutionnel par et pour et avec les premiers peuples, donc qui inclut des membres de diverses nations et des membres professionnels, étudiants, du corps professoral, des directions des différentes facultés. L'objectif, c'est vraiment, vous devez savoir qu'il y a plusieurs injustices systémiques, historiques qui ont encore des impacts là, très saillants dans toutes les sphères de la société, notamment en enseignement supérieur. Donc, ça crée plusieurs aussi freins, je dirais, pour l'accès aux études supérieures pour les personnes étudiantes autochtones. Il y a un besoin criant et important de reconnaître, de légitimiser, de faire place aux savoirs ancestraux dans l'ensemble des disciplines de recherche, de formation. Donc, c'est à ça qu'on s'affaire. Et je pourrais dire, pour avoir écouté plusieurs années le partager, qu'il y a énormément de clés de réponse aux grands enjeux actuels, notamment les crises climatiques et les enjeux de guerre là, qui viennent d'être cités, auxquels les premiers peuples ont des pratiques millénaires qui pourraient inspirer et amener des éléments de réponse importants. Donc, d'où la pertinence de considérer ces enjeux-là. Puis là, on arrive à un renouvellement de notre plan d'action institutionnel. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il reste beaucoup de pas à marcher encore dans ce chemin de rapprochement, dans ce chemin de justice. Donc, une des questions qui a été soulevée en premier dans... on s'est vraiment posé plusieurs questions parce que je pense qu'on n'avait pas... Il n'y a pas tant de personnes qui ont abordé ces deux enjeux-là de façon, là, concertée. Un des premiers points que j'ai pu soulever là, dans ma réflexion, c'était l'idée de... Bon, les ODD, on voit aussi des ancrages à l'UNESCO et tout ça. Et donc, il y a une universalité des ODD. Et nous, chez les premiers peuples, on parle de l'importance de se situer, des savoirs situés, de la localité, de s'ancrer dans un territoire et avec des relations qui sont proximales au départ. Donc là, cette idée d'universalité versus spécificité territoriale, comment on jongle avec ça?
Mais moi, j'ai aimé comment tu l'as amené, tu sais, à rimer, dans le fond, ces deux points que tu viens de mentionner. Mais c'est aussi accepter que l'universalité, elle gagne en profondeur grâce à la singularité. Puis moi, le point que je pourrais amener, que si on ramène aux perspectives autochtones, c'est qu'avec les ODD, ben, il y a des cibles, tu sais, les critères de succès, là, c'est pas mal les critères de succès qu'on connaît, disons, dans le monde scientifique puis occidental. On a des chiffres, c'est clair, tu sais, on a des indicateurs, on mesure ça, on a des échéanciers. Puis, je pense qu'avec les premiers peuples, puis tu peux me situer là-dessus, ce qu'on veut remettre de l'avant, c'est que la qualité d'une relation, bien, on ne peut pas la mesurer en pourcentage. C'est de la responsabilité, c'est du respect.
Exactement, c'est pour ça qu'il peut y avoir une apparence, en apparence un peu un clash, là, je dirais, si je peux prendre l'expression, entre les deux univers, parce que nous, c'est justement les chiffres ou tout ce qui est plus statistique, on essaie de s'en éloigner pour aller chercher le récit vivant, cette souveraineté narrative là, des voix parlées donc, et de se situer. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire pour arrimer les deux. Puis ça va peut-être nous amener à valoriser d'autres critères de succès qui permettent de déterminer la pertinence d'une approche. Donc, ce n'est pas seulement des chiffres ou des cases à cocher qui nous permettent de déterminer si nos avancées sont porteuses et probantes. Ensuite, un autre point qu'on a soulevé qui est vraiment intéressant, puis c'est un peu en lien. Bon, on est dans un monde effréné, on est dans un monde où la compétition, le consumérisme, bon, nous envahit, les médias d'information. On pourrait parler d'une temporalité accélérée. Hein? Tout le monde, je pense, on le vit un petit peu au quotidien.
Il est où le temps?
Exactement. Et pour les premiers peuples, on parle beaucoup de la sagesse du temps long. Donc, le temps qui est circulaire aussi. Et c'est vraiment un esprit, une entité. Et la relation au temps est complètement différente et éclatée. Donc, c'est sûr que les ODD nous disent qu'on vise un horizon de 2030. Chez les premiers peuples, on parle... Donc, on peut penser que c'est un peu court et pressé. Nous, on parle de cycle intergénérationnel. On parle du continuum des 7 générations. On nous dit que tout ce qui a été fait avant nous, la gouvernance millénaire des ressources des territoires qui nous a permis de subsister jusqu'ici, des 7 générations passées, chaque action qu'on prend... Ça fait vraiment un lien avec le développement durable. Chaque action qu'on pose, on pense aux 7 générations à venir. Quel impact sera notre action du moment présent? Donc, si tout le monde pouvait suivre ce postulat-là et l'adopter, je pense qu'on aurait vraiment un monde meilleur qui pourrait s'améliorer. Donc, je pense que c'est très, très parlant. Puis aussi, il y a un autre parallèle avec les 7 générations. Il y a eu plus de 7 générations brisées par la colonisation et l'époque des pensionnats. Donc, on nous dit aussi que ça va prendre plus de 7 générations avant de ramener un équilibre et une justice. Donc, le temps est long. Les circulaires, il n'y a pas de presse, donc ça va vraiment s'opposer. Je ne sais pas comment tu pourrais rebondir là-dessus, ma chère.
Bien, c'est intéressant parce que, justement, cette relation au temps, comme tu le mentionnais, on est en 2026, l'horizon des ODD, des objectifs de développement durable, c'est d'améliorer le sort de l'humanité jusqu'en 2030. Ça fait que la temporalité, elle est vraiment différente. Mais ce que j'en retiens, c'est que l'urgence qu'on a par rapport à tous les enjeux de changement climatique, de développement durable, bien, cette urgence-là, elle annule pas la profondeur, mais en fait, elle révèle la nécessité. Puis, c'est vraiment intéressant les approches qu'on amène parce que, encore une fois, tu sais, avec développement durable, on se trouve dans une manière de parler très normative. Tu sais, on a... Puis là, c'est la boîte de Pandore que je m'apprête à ouvrir. Là, le développement durable. T'sais, on veut développer, mais on veut développer quoi? On veut développer qui? On veut développer comment? Puis durable, ça veut dire qu'on s'entend qu'il y a un caractère soutenable qui va rendre ça pérenne. Mais on ne sait pas c'est quoi. En tout cas, on veut développer de manière durable, mais est-ce que l'objectif de la finalité de l'humanité, c'est de... d'avoir un développement durable, puis ce qui est le modèle de développement. Fait que ça, c'est une approche assez normative qui vient avec des valeurs, une vision, probablement un horizon. Ben, on s'entend que 2030, que ça va probablement être conduit les objectifs de développement durable ou qu'il y en aura un autre. Mais c'est quand même une vision assez normative qu'on met de l'avant. Puis toi, ce que t'amenais, c'était plutôt la souveraineté des savoirs. Que ben, chez les premiers peuples, il y a cette souveraineté-là qui est affirmée, puis un protocole de transmission qui est plutôt oral puis circulaire. Mm-hmm.
Puis c'est des idées, des fondements qui sont vraiment à respecter et à mettre de l'avant. Puis c'est sûr que ça vient aussi, encore une fois, ça peut paraître venir en opposition. C'est pour ça qu'on parlait de écho ou accro dans le terme de accrochage dans notre réflexion ensemble. Est-ce que ça accroche ces deux éléments-là ensemble ou est-ce qu'on peut les faire écho les uns les autres? Donc, je pense qu'il y a possibilité d'harmoniser les deux si on s'assure, parce qu'il y a quand même des points de vigilance à observer, si on s'assure de ne pas instrumentaliser les savoirs des premiers peuples pour atteindre nos cibles d'objectifs de développement durable. Donc, il faut honorer ce qui nous précède, le reconnaître avec humilité, révérence. Puis, je pense que là, on va pouvoir commencer à peut-être avancer dans un dialogue là, qui est porteur. C'est sûr qu'on peut comprendre aussi que ces tensions-là qu'on nomme maintenant, il ne faut pas les voir comme des obstacles. Il faut les voir, comme j'ai dit tout à l'heure, comme des portes d'entrée avec maturité, humilité, comme je viens de le dire aussi. Donc, c'est sûr qu'un autre élément qui est important aussi à souligner, bon, les premiers peuples, on est vraiment dans des savoir-faire qui sont rattachés au territoire. Les ODD, je pense, vont s'inscrire peut-être dans une ère numérique. Puis là, prenez-moi pas en erreur, je ne veux pas, généraliser là, l'indigénéité. L'indigénéité numérique est un champ là, en totale effervescence. Mais justement, comment on peut puiser aux savoirs ancestraux, mais en s'insérant dans ces visées numériques-là là, contemporaines? Je pourrais dire, je ne sais pas comment toi, tu pourrais voir le lien avec ça. Mais je pense qu'une des façons qu'on peut l'harmoniser, c'est en quand même n'oubliant jamais de nous déconnecter un peu de cette influence médiatique qui nous assaille pour mieux prendre le temps. On parle des bains de forêt souvent et on a une approche même de mieux-être là, en nature qui va être développée à l'Université de Sherbrooke en lien avec le développement durable. Donc, ça rejoint les fondements des perspectives des premiers peuples. Donc, se connecter au territoire, se connecter les uns aux autres et une expression qu'on utilise beaucoup, c'est comme un seul cœur, un seul tambour. Donc, s'harmoniser avec le rythme de la terre-mère.
Je pense que ça nous envoie vers, tu sais, une voie relationnelle vers la durabilité.
Mm-hmm, tout à fait. Bien, c'est ce que les perspectives autochtones nous disent à travers plusieurs récits, aussi plusieurs œuvres artistiques aussi. On a accès maintenant à des artistes contemporains des 11 nations du Québec qui nous partagent des œuvres qui transmettent ces savoirs-là, qui transmettent ces enjeux-là, qui nous permettent de nous éduquer aussi. Donc, je vous invite vraiment à les visiter de plus en plus. Et il y a peut-être le fondement de base là, qu'on peut rappeler... souvent, mais il y a Samian là, qui nous cite souvent dans ses chansons, qui est un chanteur de rap Anishinaabe de Pikogan. Il nous cite beaucoup « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Donc, cette idée que nous ne possédons pas la terre, nous appartenons à la terre, nous en sommes les enfants et nous pouvons en être les gardiens. Puis même, là, je ne veux pas genrer le tout, mais traditionnellement, les hommes sont vus comme les protecteurs de la vie, le masculin, sans dire les hommes, et le féminin est vu comme le donneur de vie. Donc, l'homme, c'est de protéger toute vie, le masculin. Donc, protéger toute vie, ça veut dire protéger la biodiversité, protéger la terre. Donc, si on observait ce principe ancestral-là, il n'y aurait pas de guerre non plus, notamment.
Bien, l'approche que tu décris, c'est vraiment, tu sais, en résonance avec nos valeurs puis nos visions. Ici, à l'Université de Sherbrooke, tu sais, l'université a, depuis plusieurs années, est reconnue comme une référence internationale lorsqu'on participe à des classements en matière de développement durable, puis nos campus également, c'est vraiment des laboratoires vivants, engagés. Toute la communauté universitaire est vraiment en effervescence sur les questions de développement durable. Puis dans ce sens-là, pousser pour l'intégration des perspectives autochtones dans cette démarche, finalement, c'est réaffirmer notre capacité d'innovation, d'excellence et de sens. Fait qu'on a tout à gagner de s'engager dans cette voie-là.
Tout à fait. Puis si je peux me permettre aussi, on parlait de l'idée de relationnalité, de se ramener au fait que tout est interrelié, qu'on est en réciprocité, en interdépendance avec le territoire, qu'on a une responsabilité partagée qui vise ce mieux-être collectif-là et qu'on peut apprendre des perspectives autochtones sans en faire des récupérations superficielles en transformant notre posture, notre façon de voir le monde, d'une façon nouvelle, afin de faire université ensemble. Donc, c'est une invitation que je vous lance à marcher ensemble, que je nous lance, parce qu'on souhaite que cette lettre que nous avons co-écrite soit une invitation à poursuivre ensemble une démarche qui est exigeante, certes, mais qui est vraiment fertile. pour nourrir des relations authentiques avec les premiers peuples. Donc, on aspire, je pense que je peux parler pour nous deux, à ancrer la durabilité dans des gestes quotidiens, dans des décisions institutionnelles et des pratiques éducatives. Notre rêve ultime, c'est de faire vibrer nos campus au rythme du respect, de l'humilité, de l'ouverture, de la justice et de l'engagement. Donc, cette rencontre-là entre les perspectives autochtones et le développement durable, c'est pas un écho lointain. Et c'est pas non plus un accrochage conceptuel. C'est un tissage qui est vivant, qui est riche de tensions créatrices et qui va nous permettre d'imaginer une université et une société qui seront éventuellement, souhaitons-le, réellement transformées.
Merci, Patricia Anne.
Oui, ben merci beaucoup, Patricia Anne. Là, je vais répéter votre titre, là, coordinatrice à l'expérience étudiante et à la sensibilisation aux Premières Nations, au premier plop, pardon. Sinon, ben on merci aussi à Marie-Sara Souka, conseillère pédagogique en développement durable. C'était fort intéressant. Puis nous, on va encourager toutes les étudiants. On est en pleine semaine des ODD, donc de participer aux différentes activités. Puis sinon, je vous propose de se laisser là, avec justement une chanson là, que j'aime beaucoup de Samiane qui s'appelle « Génocide ».